Europe 1 Matin Weekend.
6h-9h.
Lénaïque Monnier.
Et à 6h, c'est Victor Pourchet qui vous informe. Bonjour Victor.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. À la une, éteindre définitivement la fronde des agriculteurs. C'était l'objectif des annonces de Gabriel Attal hier, mais les syndicats restent prudents, vous l'entendrez.
La vidéo choc de deux otages israéliens aux mains du Hamas. Sous la contrainte, ils implorent Tel Aviv de trouver un accord pour leur libération. Réaction immédiate des familles qui ont manifesté hier.
Et puis en football, un match nul contre le Havre et un petit contretemps pour le Paris Saint-Germain. Toujours pas champion officiellement, mais déjà un petit peu dans sa tête.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Christophe Bordet nous explique que ça loue à tout va en ce moment à Paris en vue des JO. Et votre note secrète, Fabrice Lafitte.
Jacques Dutronc et moi, et moi, et moi.
Et c'est après le journal et votre première tendance météo. Rebonjour Mickaël Poteau.
Rebonjour Lénaïque. C'est un dimanche loin des clichés du printemps avec beaucoup de pluie sur une bonne partie est de la France. 2 à 4 semaines de précipitations en une journée attendue sur les Cévennes par exemple. Ailleurs, c'est un ciel de traîne.
Et on voit ça en détail après le journal.
Europe 1.
Et d'abord donc, vigilance, c'est le maître mot des syndicats d'agriculteurs, Victor, après les annonces hier de Gabriel Attal.
Leurs représentants attendent les actes. Ces annonces, elles sont au nombre de 14, dévoilées hier par le Premier ministre. Nouvelle tentative de mettre un terme à des mois de crise agricole et fruit d'interminables négociations. 14 mesures censées répondre aux revendications des professionnels, Martin Lange.
Oui, avec un message clair de la part du gouvernement, on ne vous oublie pas, c'est ce qui est venu rappeler Gabriel Attal hier dans la Manche.
On est au contact des agriculteurs, c'est pas parce qu'il y a eu un mouvement de crise avec une mobilisation très forte, qu'on n'est plus dans ce temps-là, que je vais lâcher le sujet, au contraire.
Avec 14 mesures, parmi elles des aides en trésorerie, avec des prêts garantis par la BPI, 100 projets de stockage d'eau finalisés avant la fin de l'année, ou encore un grand plan d'accompagnement pour les agriculteurs de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault. Enfin, la retraite des agriculteurs sera désormais calculée sur les 25 meilleures années de leur carrière, de vraies avancées selon la FNSEA qui attend désormais leur mise en œuvre. Patrick Bénézy, son vice-président.
Il ne faut pas laisser penser que le mouvement est éteint parce qu'il y a ces annonces. Il sera définitivement éteint lorsqu'il y aura la concrétisation de l'ensemble des choses. Et aujourd'hui, on n'en est pas à ce stade-là.
Un constat partagé par les autres organisations, notamment la Coordination Rurale, troisième force syndicale, qui promet de relancer la mobilisation si ces mesures ne se concrétisent pas dans les corps de ferme.
Les explications de Martin Lange.
L'agriculture, sujet français, mais surtout européen. On en parle d'ailleurs, je vous le disais, à 8h12 avec Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe et invité d'Europe 1 Matin Weekend.
Mais avant cela, il y a eu aussi cette petite phrase de Gabriel Attal, interrogé sur les manifestations pro-palestiniennes à Sciences Po Paris. Il n'y aura jamais de droit au blocage, dit le Premier ministre, sauf qu'hier, une autre école était occupée, l'Institut d'études politiques de Reims, conséquence, déménagement en urgence d'une convention de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme qui devait s'y tenir, la LICRA qui accuse des militants insoumis d'encourager ces actions, et ce n'est pas la seule, Mayalène Trémollet.
Oui, c'est sous les encouragements des élus LFI que les étudiants se mobilisent. La candidate insoumise aux élections européennes, Rima Hassan, militante pro-palestinienne, appelait hier sur ses réseaux sociaux à une mobilisation étudiante réunissant tous les IEP de France. Des blocages qui ont suscité l'indignation du gouvernement. Le Premier ministre Gabriel Attal affirmait ainsi hier que la vigilance serait totale dans les jours à venir.
J'ai eu l'occasion, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, de me rendre à Sciences Po pour dénoncer les dérives d'une minorité agissante et dangereuse qui veut imposer à la majorité des étudiants, aux enseignants, une idéologie venue d'outre-Atlantique, essayer de perturber le bon fonctionnement de cette école. Nous ne transigerons jamais sur le respect des valeurs de la République.
De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a condamné l'irresponsabilité de Rima Hassan, déclarant que le cynisme électoral n'excusait pas tout. Il faut dire que dans le cadre des élections européennes, ces révoltes font le jeu de la France insoumise, qui cherche à transformer dans les universités la colère militante en bulletin de vote. Un calcul électoral qui s'inscrit dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, alors que les insoumis ont fait de la cause palestinienne le sujet principal de leur campagne européenne.
Et ces blocages étudiants, mouvement tout droit venu des États-Unis où près de 200 manifestants ont été arrêtés hier aux quatre coins du pays, à New York, Boston, dans l'Indiana ou encore dans l'Arizona. Dans le même temps, c'est une vidéo d'otages diffusée par le Hamas qui secoue Israël. On y voit Keith Siegel, 64 ans, et Omri Miran, 47 ans, assis sur des chaises en plastique devant un mur blanc défraîchi. Probablement, très probablement sous la contrainte, ils se disent en danger à cause des bombardements israéliens. Ils implorent aussi leur gouvernement de trouver un accord avec les terroristes. Dans la foulée, à Tel Aviv, des familles d'otages ont une nouvelle fois manifesté pour réclamer leur libération.
On en vient, Victor, à notre sondage du jour. Faut-il supprimer les allocations familiales pour des parents de mineurs récidivistes?
Et selon l'étude CSA exclusive pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, près des trois quarts des Français y sont favorables, Alexis de la Fontaine.
72% des Français veulent que l'État retire les allocations sociales aux parents d'émeutiers, une mesure soutenue par 9 militants de droite sur 10 et jusqu'à 95% au Rassemblement national. Chez les sympathisants d'Emmanuel Macron, le résultat est également sans appel, avec 80% d'opinions favorables. Même au sein de la gauche la plus radicale, 50% des électeurs demandent la suppression des aides de l'État pour les parents de récidivistes, alors que le Parti socialiste, les écologistes et la France insoumise sont farouchement opposés à cette mesure. La preuve qu'une large majorité de la population souhaite désormais des décisions fortes pour faire face aux émeutes. Enfin, les résultats laissent apparaître un décalage générationnel. Plus les personnes sont âgées, plus elles soutiennent cette idée.
Alexis de la Fontaine, plus de fermeté aussi dans la lutte anti-drogue et anti-crime organisé. C'est ce que souhaite le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Pour cela, il annonce la création prochaine d'un parquet national dédié sur le modèle italien contre la mafia. Enfin, le ministre de la Justice pousse pour un statut de repenti pour certains trafiquants. Ceux qui souhaiteraient sortir de ces trafics et les dénoncer pourraient alors complètement changer d'identité. Cela ne leur éviterait pas la prison.
Mettre à disposition l'arme nucléaire française à la disposition de nos alliés européens, Emmanuel Macron veut ouvrir le débat.
C'est ce que répond le président à un groupe de jeunes dans une interview dévoilée hier. L'arme nucléaire que la France est le seul européen à posséder viendrait ainsi renforcer la défense anti-missile européenne voulue par le chef de l'État. Objectif, dissuader la Russie d'attaquer un membre de l'UE. Par ailleurs, Emmanuel Macron tacle, je cite, l'hypocrisie démocratique du Rassemblement National, le RN, qui ne propose rien selon lui, mais qui est, je le rappelle, toujours premier dans les sondages pour les élections européennes.
6h07 sur Europe 1, on passe au football, Victor, avec le Paris Saint-Germain. Toujours pas officiellement champion de France.
La faute au match nul concédé face au Havre. 3-0 hier soir. Alors mathématiquement, c'est vrai, ce n'est pas encore fait. Mais dans l'esprit de l'entraîneur Luis Enrique et du milieu Warren Zaïre-Emery, si.
Ce but nous donne le titre. On est champion. Qu'il y ait une fête ou pas, ça m'est égal. Même si on ne marque plus aucun point, on sera champion.
Bon, on est très contents parce que ça montre aussi la régularité qu'on a eue tout au long de la saison. Et c'est quelque chose de pas facile et ça montre la bonne saison qu'on a faite.
Alors oui, le Paris Saint-Germain peut tout de même être champion sans jouer ce soir. Pour cela, Monaco ne doit pas s'imposer contre l'Olympique Lyonnais. Coup d'envoi à 19h. Quant aux féminines parisiennes, elles vont devoir renverser Lyon, justement, dès 16h en demi-finale. Retour de la Ligue des Champions pour espérer se qualifier. Les Lyonnaises avaient gagné 3-2 au match aller.
Et puis c'est le dernier jour des vacances, si toutefois vous habitez dans le nord ou dans le sud-est. Mais il faut déjà préparer celle d'été et même les ponts à venir du mois de mai avec un casse-tête. À qui laisser son chien quand on ne peut pas l'emmener avec nous?
Et que papy et mamie, ou les oncles, ou les tantes ne sont pas vraiment d'accord pour dépanner quelques jours, eh bien, une application vous permet de trouver maîtres chiens et bénévoles à moindre coût. Ça s'appelle Empreinte mon toutou et ça coûte moins de 5 euros par mois. Service vétérinaire compris. Reportage à Paris signé Mathieu Prieur pour Europe 1.
Depuis maintenant 8 mois, Abla, 31 ans, garde Mike, un spitz nain âgé d'un an, lorsque sa maîtresse est en vacances. Avec Pancake, son propre chien, ils sont tous les trois devenus inséparables.
Ils sont tout le temps avec moi, peu importe ce que je fais, si je vais au supermarché, si je vais faire une course. On passe la journée ensemble, on discute ensemble, on danse ensemble.
Depuis la création d'Empreinte Mon Toutou, il y a 7 ans, plus de 500 000 chiens ont ainsi trouvé une famille d'accueil pendant les vacances. Thibaut Pfeffer est le fondateur de l'application.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de payer un pet sitter pendant 2 semaines, parce que ça peut coûter vite très cher. Et parfois, on sort des personnes de situations compliquées dans lesquelles ils devraient se séparer de leur chien. Et grâce à notre réseau de bénévoles, ils trouvent de l'aide.
Et le marché potentiel dépasse l'imagination. Nous possédons plus de 80 millions d'animaux de compagnie, tous candidats potentiels à la garde d'été. Les plateformes se multiplient à tous les prix et pour toutes les espèces, du chat au lapin, en passant par le poisson rouge, les araignées et même les serpents. De quoi passer des vacances en toute tranquillité.
Mathieu Prieur, je vais pas laisser le WAF. Reportage de Mathieu Prieur pour Europe 1. Alors, des chiens, vous en verrez beaucoup sur la promenade des Anglais si vous êtes du côté de Nice aujourd'hui. C'est là. Troisième édition de la marche des animaux. Tout le monde peut venir gratuitement pour faire défiler son compagnon de vie. Toutes sortes de compagnons d'ailleurs, puisque les années précédentes, on y a même vu un lama.
Ah oui.
Alors moi, sinon, je vous propose, là, sur la page Facebook d'Europe 1 Matin, on fait notre marche à nous. Tout le monde poste son petit chien, son petit chat.
Ah bah oui, montrez-nous vos petits animaux. Montez-nous. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup.
C'est la marche Europe 1 des animaux. C'est bien aussi.
C'était le journal de Victor Porcher. Merci Victor. Michael Poteau à 6h10 sur Europe 1 pour les auditeurs d'Europe 1 qui se réveillent. Vous allez leur annoncer que tout le pays sera sous l'eau aujourd'hui.
Oui, toute la partie est surtout. D'accord. Effectivement, les fortes pluies se sont déplacées sur toute la façade est du pays, du Languedoc jusqu'aux Vosges, avec des précipitations plus fortes et parfois orageuses en Méditerranée, là où le vent souffle d'ailleurs dès ce matin de 50 à 70 km par heure. Des pluies plus modérées sur les côtes de la Manche, là encore du vent jusqu'à 80 km par heure, et des averses plus rares sont attendues ce matin du Sud-Bretagne à la Garonne. Et entre ces deux zones humides, des Pyrénées aux frontières belges. Là, le temps est plus lumineux et plus sec. Les températures pour ce matin, de 5 à 13 degrés. 5 la minimale pour Tarbes, 6 à Aurillac, 7 à Mont-de-Marsan, 8 à Cherbourg, 9 à Épinal, 10 à Reims et Paris, 11 à Lille et jusqu'à 13 pour Ajaccio.
Et alors pour cet après-midi, qu'est-ce que ça va donner, Michael ?
Alors, très peu de changements par rapport à ce matin. Notez quand même que des averses plus nombreuses sont attendues sur les Pyrénées et plus orageuse dans le sud de Normandie. Précisons quand même que le soleil va se montrer bien généreux autour du Mercantour et en Corse. 12 à 26 cet après-midi, 12 à Calais, 13 à Dijon, 14 à Caen, 15 à Montélimar, 16 à Angers, 17 à Nevers et jusqu'à 26 degrés pour Ajaccio.
Ça commence à ressembler au printemps. Ouais. Merci beaucoup Mickaël, il est 6h11 sur Europe 1. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les meilleurs moments de Sophie et les copains, mais avant cela... Vous connaissez la musique, c'est l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour les naïcs, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce quintet agrémenté cet après-midi d'une tirelire exceptionnelle de 2 millions d'euros. Et parmi les 16 pur sang âgés de 4 à 7 ans qui seront au départ de ce handicap long de 1400 mètres, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Murciano, le numéro 16, le grand malheureux du quintet du 14 avril à Longchamp où il s'est retrouvé emmuré vivant au moment de l'emballage final, alors qu'il avait visiblement les ressources nécessaires pour disputer activement la victoire, et il pourrait bien dès cet après-midi trouver une juste compensation et rembourser ainsi ses nombreux supporters. On lui opposera les numéros 8 étatiques, 2 Kendley et 10 White Platin, classés respectivement 1er, 4e et 6e d'un quintet similaire disputé le 7 avril à Longchamp sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi. Et sur la foi de cette performance, ces trois-là sont incontournables mais aussi indissociables. Enfin, les numéros 4 Apax, 3 Pedrito, 9 Royal Shake et 14 Freja compléteront ma sélection. Mon pronostic, 16, 8, 2, 10, 4, 3, 9 et 14.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Thierry Léger. Bon dimanche.
16h, 18h sur Europe 1.
Sophie et les copains.
Et les meilleurs moments de Sophie et les copains que vous retrouvez toute la semaine entre 16h et 18h. Vous connaissez le concept désormais, vous appelez, vous jouez. Est-ce que vous gagnez bien cette semaine? C'est Elisabeth qui a tenté sa chance, on écoute.
On joue avec les archives, Elisabeth.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Combien?
Et on va retrouver avec plaisir la voix si particulière d'un très grand nom de la station. C'était un de vos fiancés, Daniel Albert
non,
Simon.
Non, quand même pas.
Allez, on va écouter Albert Simon.
La température de l'eau en été,
alors, il y a
gagner.
Justement un critère, c'est pour ceux qui vont à la mer, et je crois qu'ils ont raison de partir en août. Mais moi, ça m'est arrivé en 1957 à Bénodet, le 25 août, alors qu'il faisait beau, plus personne sur les plages. En 1960, à Perros-Guirec, j'avais retenu une chambre jusqu'au 31 août. L'hôtelier voulait me mettre à la porte sous prétexte que j'étais le seul client. En 1961, le 2 septembre à Dinard, nous n'étions plus que trois sur la plage.
Et vous savez, quand il dit trois, c'est qu'il compte, Albert Simon.
Ah ben, il y avait deux Anglais et moi.
Justement, il faisait fuir les vacanciers.
Fallait pas partir en vacances avec
lui. Pour quelle raison?
Ben justement, est-ce que c'est parce qu'il donnait les prévisions souvent mauvaises aux autres clients qui, du coup, partaient? Est-ce que c'est parce qu'il était célibataire, du coup, ça n'arrangeait pas les gérants d'hôtel en période de pointe? Ouais. Il préférait des chambres occupées par deux personnes. Oui. Hein. Ouais. Ou est-ce que c'est parce qu'il avait un cochon domestique qui l'aidait dans ses prédictions et qui l'emmenait avec lui dans les hôtels?
Je crois pas le cochon, parce qu'on le saurait, ça, je sais pas.
Ouais, je pense que le cochon, ça serait une histoire. C'est une légende un peu répandue.
En général, c'est des grenouilles hein, qu'on utilise.
Oui, ouais. Moi, je penserais la une.
Qu'est-ce qu'elle pense, Daniel?
Moi, je penchais pour la deux, mais ça change.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Elisabeth?
Ben, je suis les copains.
C'est-à-dire?
Le célibat,
c'est la 2.
Ils ont dit la 2.
Ouais.
Alors, on écoute la réponse.
En fait, il a de gros problèmes avec ses vacances. C'est un secret pour personne, on en a déjà parlé. Il est célibataire, Albert Simon. Ouais, alors, les hôteliers français, en période de pointe, ça ne les arrange pas beaucoup de donner une chambre à un célibataire. C'est une chambre qui pourrait être pratiquement très peu occupée. Alors, il a chaque année des problèmes épouvantables pour ses vacances.
Bravo.
Alors, eh ben, il dit pas qu'il draguait
non, pas du tout, mais
en
bon,
fait,
il dépensait. L'important, c'est d'avoir la bonne réponse.
Oui. Il dépensait moins d'argent en tant que célibataire que s'il avait eu une famille avec des bouches à nourrir.
Bon, c'est pas cool quand même. En tout cas, bravo Elisabeth.
Quatre bonnes réponses pour Elisabeth. Bravo. Elisabeth qui va tenter le jackpot. Il va falloir me donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute, Elisabeth. 1500 euros à gagner si vous réussissez. Si c'est cet exercice de rapidité, est-ce que vous êtes prête?
Oui, je suis prête. C'est bon.
On lui dit bonne chance, mais on pense à vous.
Bonne chance avec vous.
Ouais. Et passez à la question suivante si la réponse ne vient pas tout de suite. Ok?
Oui, oui, réfléchissez vraiment pas, Elisabeth. Hein.
Attention, Elisabeth, top chrono. Quelle Florence est en couple avec l'humoriste Alexandre Kominek?
Foresti.
De quelle grande ville française Bertrand Delanoë a été le maire?
Paris.
Brigitte et Emmanuel Macron ont une villa au Touquet ou à Bénodet?
Touquet.
René Angeli est mort dans les années 2010 ou en 2020?
2010.
Alain Bernard était nageur ou jockey?
Nageur.
Maus de Art Spiegelman est un tableau ou une BD?
BD.
Quel Philippe est à l'origine du Puy du Fou?
De Villiers.
Miss France 2024, c'est Eve Gilles ou Marion Jean?
Gilles.
Qui est l'acteur principal de la saga Top Gun?
Grant.
Qui a chanté les sirènes du port d'Alexandrie?
Claude-François.
Carole Bouquet a été une James Bond girl dans Rien que pour vos yeux ou L'espion qui m'aimait?
Rien que pour vos yeux.
Vrai ou faux?
Yes, yes.
Eh bien, vous avez bien fait de nous inscrire, Elisabeth, et pour une fois de nous écouter de jour et non pas de nuit.
Oh là là, c'est sympa, j'ai l'air aux yeux là.
Bravo, c'est super.
On vous
merci
souhaite,
beaucoup, les copains.
On vous souhaite d'en profiter, d'en faire bon usage et on vous embrasse très fort, Elisabeth.
Merci beaucoup.
Et pour faire comme Elisabeth, c'est assez simple, hein, finalement, sur Europe 1, vous appelez le 01 80 20 39 21. Vous jouez avec Sophie et les copains dès 16h sur Europe 1. Et puis la semaine qui vient, en plus, vous pourrez gagner un séjour en Slovénie. Donc ça vaut le coup, appelez le standard.
Bon dimanche matin.
Matin, week-end.
6h, 9h, Lénaïque Monnier.
Sur Europe 1, il est 6h17.
L'heure du journal permanent, Victor Pourchet.
Faut-il mettre l'arme nucléaire française à disposition de nos alliés européens? Emmanuel Macron veut ouvrir le débat pour dissuader la Russie d'attaquer un pays membre de l'UE, le chef de l'État, qui veut aussi renforcer la défense antimissile européenne. Des manifestations à Tel Aviv hier, les familles d'otages ont une nouvelle fois exprimé leur colère et réclamé la libération de leurs proches aux mains du Hamas. Manifestation déclenchée par la publication par le mouvement terroriste d'une vidéo montrant deux prisonniers. Près des trois quarts, 72% des Français sont favorables à une suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes. C'est le résultat du sondage CSA exclusif pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Et puis ça ne passe pas pour les rugbywomen du 15 de France, battus 42 à 21 hier par les Anglaises lors du dernier match du tournoi des Six Nations. L'Angleterre qui enchaîne son sixième grand chelem consécutif.
Merci beaucoup Victor Pourchet, vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1. La note secrète de Fabrice Laffitte, elle est consacrée ce matin au premier tube de Jacques Dutronc, et moi, Jacques Dutronc qui fête ses 81 ans aujourd'hui. Et puis, bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous dira que ça loue à tout va à Paris avant les Jeux Olympiques de cet été. A tout de suite, 6h19 sur Europe 1.
Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
Allez, le tir c'est gagnant du dimanche. Mathieu Alterman, Roland Pérez, Christophe Bordet, tous réunis dans le studio.
On est là, bonjour. Est là, bonjour les amis.
Christophe Bordet, c'est avec vous qu'on démarre.
Oui.
Parce qu'il y a les JO bientôt, on en parle.
On va parler des JO, effectivement. C'est le résultat d'une étude menée par Likibu.com, L-I-K-I-B-U.com, comparateur de location de vacances en ligne qui... C'est d'abord intéressé au prix des locations pendant les JO, justement. Les réservations déjà effectuées ont coûté en moyenne, tenez-vous bien, quelques chiffres à retenir. 39% plus cher à Marseille, 32% à Lyon, 22% à Nantes, plus 17% à Bordeaux. Et à Paris, combien coûte la nuitée chez le particulier sur les plateformes?
J'aimerais bien savoir.
Aurélien Gemma de Likibu.com, écoutez.
100 euros la nuit hors frais. Donc généralement, vous rajoutez les frais de ménage, les frais de plateforme, 20% on va dire. Donc en réalité, on est plus entre 450 et 500 sur le prix tout frais inclus. Pour Paris, ça représente une hausse de 77% par rapport à l'année dernière. C'est vraiment tous les logements qui ont d'ores et déjà été réservés à Paris pendant la période des Jeux Olympiques.
Vous allez louer votre logement?
Je suis locataire, donc je n'ai pas le droit de le faire.
Ah oui, la sous-location, on va en parler bientôt.
Et puis
bientôt.
J'ai envie de participer au JO, moi.
On va reparler de la sous-location très bientôt, d'ailleurs, parce que ça, c'est un vrai danger.
Oui.
Alors, le prix, on vient de l'entendre, hein, c'est pas mal. Et puis, alors, le nombre de réservations, dans la capitale, ça explose.
On est autour de 200 000 nuits réservées à Paris sur les plateformes du 26 juillet au 11 août. Donc, ce qui est quand même un volume très important quand on compare au même volume de l'année dernière, puisque c'est quasiment 80% de ce qui a été réalisé à la même période en 2023.
Alors, je vois mon voisin de gauche écarquiller les yeux en disant
Roland
« Ah
Pérez.
Bon, ça explose !» Ça explose pour les particuliers qui ont décidé de louer leur logement pendant qu'ils sont en vacances. Hein. Je n'ai pas parlé des hôtels. Les hôtels se plaignent parce que justement, il n'y a pas assez de clients.
Je suis perplexe parce que moi, j'ai essayé de alors, oui. j'ai pas pris la plateforme, je me suis adressé à des professionnels pour. Mais ils me disent qu'en fait, qu'il y a très peu de demandes. C'est pour ça que j'ai suis un peu
là, voyons, on a des chiffres très précis à travers Likibu.com.
C'est peut-être trop cher chez vous, Roland.
Peut-être. Justement, j'étais
alors,
dans la moyenne
annoncée. À Paris, on l'a dit, ça marche pas trop mal chez les particuliers. Et en banlieue, énormément de logements en location également.
Saint-Denis, par exemple, il y a 2,5 fois plus de logements que l'année dernière pour juillet-août. Donc, c'est quand même très notable. Et quand on va sur des petites villes de banlieue, Élancourt qui accueille le mountain bike ou Vers-sur-Marne où c'est les épreuves de kayak, aviron, etc., on parle d'un stock qui a été multiplié par 4. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que vous avez une très forte augmentation du nombre de logements pendant la durée de la compétition, ce qui correspond quand même pas mal avec des propriétaires de résidences principales qui vont mettre leur logement en location et en profiter pour partir en vacances pendant la même période.
Et évidemment, en profiter pour payer les vacances avec l'argent des locations, tant qu'à faire. Bon, un conseil quand même, si vous le faites, prenez une bonne assurance, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises avec l'appartement endommagé après les Jeux, quand on rentre.
Ouais, ça serait fâcheux quand même.
Fâcheux,
c'est pour ça que moi, je crois que je ne voudrais jamais mon appartement.
Ça peut être fâcheux.
Peur.
Voilà.
Merci Christophe Bordet, Europe1.fr, pour retrouver cette chronique.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller en ce dimanche 28 avril, 6h23.
Un nouveau journal d'ici quelques instants sur Europe 1 avec Alexis de la Fléchère. Mais avant cela, on retrouve la note secrète. Bonjour Fabrice Laffitte.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
Et nous célébrons les 81 ans de Jacques Dutronc. Il est en Corse en ce moment et l'occasion de revenir sur l'histoire de son tout premier succès.
700 millions de Chinois, Emma.
Allez, on va faire un retour en arrière. Au début de l'année 1966, Jacques Rolfson est directeur artistique chez Vogue. C'est un drôle de personnage qui, à ses heures perdues, s'amuse à tirer par la fenêtre la carabine sur le magnétophone ou la platine 10 de son collègue d'en face, qui est lui aussi directeur artistique, mais il y a une petite compétition entre les deux, puisque l'autre s'occupe d'Antoine.
Et en réalité, ce fameux Jacques Rolfson, Il supporte assez mal la concurrence, voire très mal. Hein.
Il contacte alors le romancier Jacques Lanzmann, qui dirige à l'époque le mensuel masculin Lui, pour qu'il écrive une chanson à la façon d'Antoine. Jacques Dutronc, 23 ans, est musicien et aussi assistant de Jacques Dawson et composé de la partie musicale. Au bout de 2 semaines de travail, le résultat s'intitule « Et moi, et moi, et moi ». Le titre est alors proposé à un chanteur totalement inconnu, Louis Benjamin, mais son interprétation ne satisfait pas le producteur.
Et alors le second choix se porte sur Adi Calafat.
Oui, alors lui, c'est le bassiste d'El Toro et des Cyclones, un groupe de rock où Jacques Dutronc sévit, mais le résultat n'est pas plus satisfaisant. Finalement, Jacques Wolfson demande à son jeune assistant Jacques Dutronc d'enregistrer une maquette de « Et moi, et moi, et moi ».
Et alors Jacques Dutronc, il n'est pas du tout emballé. Fabrice, il va même au studio en traînant des pieds.
Ah oui, non, ça ne lui plaît pas du tout. Mais finalement, Jacques Wolfson trouve que c'est la voix de Jacques Dutronc qui convient le mieux à ce morceau et le fait enregistrer la version finale dans la foulée au studio Vogue de Paris. C'est la première chanson de la face A du premier 45 tours de Jacques Dutronc et c'est un véritable succès. C'est même l'un des tubes de l'été 1966. La diffusion en boucle sur une radio qu'on connaît bien, Europe 1, station préférée de la jeunesse de l'époque, n'y est pas étrangère. Ce 45 tours se vend à plus de 100 000 exemplaires. Il est à noter dans les musiciens la présence d'un certain Alain Legovic au piano et à l'orgue, futur Alain Chamfort.
Allez, on écoute « Et moi, et moi, et moi » sur Europe 1, Jacques Dutronc.
« 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 300 millions de noirs, et moi, et moi, et moi. Vivais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi, qui regardent Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi, et moi, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi, et moi, et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi, et moi, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi, et moi, et moi. Comme un con de Parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie.
Et un bon anniversaire à Jacques Dutronc, 81 ans, qui nous écoute ce matin peut-être depuis la Corse avec ce titre qu'on vient d'écouter, Fabrice, et moi, et moi, et moi. Merci Fabrice.
Merci, bon week-end.
Bon dimanche.
Et un bon anniversaire bien sûr à tous ceux qui sont nés un 28 avril. On nous parle de Pénélope Cruz, Lénaïque, sur la page Facebook de l'émission.
Bah, bon anniversaire Pénélope.
Elle nous écoute.
Bah, probablement.
Faut parler espagnol par contre.
Pénélope.
Ah oui, pas mal, oui, vous avez bien l'accent. Et puis on salue bien sûr d'autres personnes. Vous êtes nombreux à réagir sur le Facebook de Europe 1 Matin Week-end. Il y a Cécile qui nous annonce 15 degrés à Nogent. Cécile qui me fait beaucoup rire, elle a posté une photo avec un décor et une météo similaire pour les 4 saisons. C'est pas faux.
La même photo. C'est vrai qu'en même temps on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup changé depuis l'automne. Hein.
C'est pas faux. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook d'Europe 1 Matin. On salue notamment Thomas qui lui précise qu'il fait 7 degrés dans les Landes.
Et qui est un fidèle auditeur, comme vous l'êtes tous sur la page d'Europe 1 Matin Week-end. Et puis évidemment, à nous écouter tous ensemble. Vous restez bien avec nous. D'ici quelques instants, on va retrouver Alexis de la Fléchère pour un nouveau journal. Nous verrons que le Paris Saint-Germain n'est pas encore champion, mais que cela pourrait bien arriver dès ce soir. Ça va dépendre un peu du résultat de Monaco. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dans un instant pour le journal de 6h30.
Bonjour, c'est Sonia Mabrouk.
Le grand rendez-vous Europe 1.
Ce matin, le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Notre invité, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes. Le discours à la Sorbonne d'Emmanuel Macron sur l'Europe, la bataille électorale qui s'accélère et l'enjeu de survie pour la droite. Sur tous ces sujets, rendez-vous ce matin sur Europe 1 et CNews.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Dans quelques instants, retrouvez l'entretien, une date, une histoire avec la Caisse d'épargne Île-de-France, banque coopérative au service de sa région. Plus d'infos sur caisse-épargne.fr/île-2-France.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce dimanche 28 avril. Bienvenue à tous. Il est 6h30 lors d'un nouveau journal présenté par Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Tenu en échec hier au Parc des Princes, 3-3 face au Havre, Paris devra attendre un peu avant d'être sacré champion de France. En attendant, le club de la capitale met le cap sur sa demi-finale aller de Ligue des Champions mercredi prochain.
Dans ce journal également, on va revenir sur cette vidéo publiée hier par le Hamas et qui montre deux otages israéliens. Pourquoi ce timing ? Pour quelle stratégie ? Réponse dans le journal.
Puis le mois d'avril se termine doucement. On va donc attaquer le fameux mois de mai et ses nombreux ponts. Le 8 mai, la fête de la victoire, et vous l'entendrez, très plébiscité cette année par les Français.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la balade du dimanche, Vanessa, on part
planter du riz
en Camargue. Et avec Olivier Pousse, notre recette un peu exotique.
On part en Suède faire du gravlax.
Philippe Legrand, une date, une histoire arrive et reçoit ce matin Amir et Sandrine Lévy, la productrice et épouse du défunt Daniel Lévy. C'est après le journal. Et votre tendance météo, Mickaël Poteau.
Oui, les Naïcs, avec un peu d'averse à l'ouest, beaucoup de pluie sur l'est. Entre les deux, un temps calme et un très beau soleil en Corse.
Et météo complète après le journal.
Europe 1.
Et à la une, donc à 6h30, le Paris Saint-Germain qui n'a pas encore validé, Alexis, son titre de champion de France.
Et non, les Parisiens ont concédé le nul face au Havre hier soir lors de la 31e journée de Ligue 1, score final 3 partout. Paris a même été mené 3-1 pendant le match et c'est seulement à la fin de la rencontre, à l'orgueil, que le club de la capitale est allé arracher le point du match nul, Cédric Chasseur.
Attendra, mais cela n'affecte pas les supporters parisiens qui auront tout au long du match donné de la voix. Car le but de Gonçalo Ramos en toute fin de match offre à Paris plus qu'un point, selon l'entraîneur Luis Enrique.
Ce but nous donne le titre, on est champion. Qu'il y ait une fête ou pas, ça m'est égal. Même si on ne marque plus aucun point, on sera champion.
Il faut dire qu'avec 12 points d'avance sur Monaco et un goal average très favorable, il est désormais quasi impossible que le titre échappe à Paris. Warren Zaïre-Emery, le jeune milieu de terrain du PSG.
Bon, on était très contents parce que ça montre aussi la régularité qu'on a eue tout au long de la saison. Et c'est quelque chose de pas facile et ça montre la bonne saison qu'on a fait.
Il faudra donc plus que 3 buts encaissés face à la deuxième pire attaque de Ligue 1 pour démoraliser des Parisiens libérés désormais du poids de la Ligue 1. Fini de se cacher, le PSG peut désormais officiellement tourner les yeux vers Dortmund et cette demi-finale aller de la Ligue des Champions mercredi soir.
Cédric Chasseur, Paris qui pourrait officiellement être sacré champion de France ce soir à condition que Monaco ne s'impose pas à Lyon, match à 19h. Le PSG qui a aussi officialisé hier la prolongation de contrat de sa pépite Warren Zaïre-Emery, désormais lié au club jusqu'en 2029. Et puisque Cédric Chasseur parlait des ambitions européennes parisiennes, c'est à souligner Dortmund, qui recevra donc Paris en demi-finale aller de la Ligue des Champions mercredi, a perdu hier en Bundesliga, le championnat allemand. Défaite 4-1 quand même contre Leipzig.
À la une de l'actualité également, cela se passe à l'international et nous allons à Gaza puisque le Hamas a diffusé hier une vidéo de deux otages israéliens.
Oui, une vidéo visiblement tournée jeudi dernier dans laquelle on voit Cass Siegel, 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Mercredi déjà, le Hamas avait publié une première vidéo avec une autre otage. Selon David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialisé du Moyen-Orient, ce timing est tout sauf un hasard.
Ça s'inscrit dans une stratégie de communication parce que c'est la fête juive de Pessah.
entre le 22 et le 30 avril. Et donc, c'est un moment évidemment très sensible. Et d'ailleurs, dans la vidéo, il évoque les fêtes de famille. Donc, c'est une manière de mettre la pression, une pression psychologique à la fois sur les familles, évidemment, mais en sachant qu'il y aura une répercussion aussi des pressions des familles sur le gouvernement. Et d'ailleurs, dans la vidéo, l'otage fait mention du fait que le gouvernement israélien et tout particulièrement Benjamin Netanyahou aurait abandonné justement les otages. Donc il y a une stratégie évidemment de pression psychologique de la part du Hamas. En tout cas, c'est pas un hasard si ces vidéos sortent maintenant.
David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient, joint pour Europe 1 par Martin Lange. Le Hamas qui étudie toujours une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve associée à la libération d'otages justement. En attendant, Israël continue de préparer de son côté une offensive terrestre à Rafah où s'entassent 1,5 million de Palestiniens, principalement des déplacés. À noter aussi que le Hezbollah libanais dit avoir visé 3 positions militaires dans le nord d'Israël.
Le conflit israélo-palestinien, Alexis, qui secoue toujours les universités américaines.
Oui, avec des manifestations d'étudiants organisées en soutien au peuple palestinien sur de nombreux campus. Des arrestations et évacuations se sont déroulées hier sur plusieurs sites. À Boston, par exemple, un campement a été évacué par la police, intervenu en tenue anti-émeute. Les autorités à Aviv Afrid durcissent le ton.
Oui, hier matin à l'aube, des policiers anti-émeutes ont pénétré dans le campement établi par les manifestants à Boston. Ils l'ont démantelé et ont arrêté plus d'une centaine de personnes. Ceux qui pouvaient prouver qu'ils sont bien étudiants ont été relâchés, mais seront sanctionnés par la direction. Pour les autres, direction la prison. Les responsables de l'université justifient leur fermeté en rapportant que des propos antisémites auraient été tenus, notamment des cris de mort aux juifs. Pas question après ça de laisser la situation se dégrader encore plus. À Columbia aussi, les manifestants sont sous le feu des critiques après la publication d'une vidéo dans laquelle l'un des meneurs du mouvement, Kimani James, tient des propos extrêmement violents.
Les sionistes ne méritent pas de vivre. Je suis très à l'aise quand je dis que ces gens doivent mourir. Soyez heureux que je ne sois pas dehors en train d'assassiner des sionistes.
L'étudiant a depuis été exclu, mais de plus en plus, les universités semblent vouloir reprendre le contrôle et ne plus tolérer les campements. Depuis le début du mouvement, plus de 700 arrestations ont eu lieu dans tout le pays.
Aviv Afrid, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Et puis en France, vous le savez, c'est le campus de Sciences Po Paris qui a été touché par des blocages et des manifestations pro-israéliennes.
Manifestation à laquelle la France insoumise s'est invitée. Rima Hassan, 7e sur la liste LFI aux européennes, a été la première à se montrer aux côtés des étudiants en appelant au soulèvement, une présence qui ne fait que mettre de l'huile sur le feu, selon Shannon Seban, présidente du Parti Renaissance en Seine-Saint-Denis.
La France insoumise aujourd'hui ne souhaite pas accéder au pouvoir. Ce qu'il souhaite, c'est justement jouer le contre-pouvoir et être systématiquement dans la contestation, dans le refus de la démocratie. Mais où sont les propositions? Prenez Rima Hassan. Elle est candidate aux élections européennes. Elle a décidé de faire du conflit israélo-palestinien le cœur de sa campagne. Mais non seulement elle appelle à la mobilisation, mais je ne sais pas si vous avez vu son post sur X, elle appelle au soulèvement. Mais de quoi parle-t-on? Réveillons-nous. Donc oui, effectivement, moi je suis inquiète et particulièrement préoccupée de cette stratégie de la France insoumise qui contribue à alimenter un climat de haine dans notre pays, alors même que dans le même temps, ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir poser les bases d'un climat apaisé et serein sur un sujet aussi grave que le conflit israélo-palestinien.
Les propos recueillis par Jacques Serret. Et puis, après cette mobilisation pro-palestinienne tendue à Sciences Po, conclue par un accord entre manifestants et direction, Gabriel Attal a voulu réagir. Il n'y aura jamais de tolérance avec l'action d'une minorité dangereuse qui cherche à imposer ses règles, a dit le Premier ministre, qui déplore aussi un spectacle navrant et choquant.
Quant à Emmanuel Macron, il s'est attaqué, lui, hier à un autre thème. Le président se dit prêt à ouvrir le débat pour une défense européenne avec l'arme nucléaire.
Oui, déclaration du chef de l'État dans la presse quotidienne régionale. Le président qui précise que la France garderait sa spécificité, mais pourrait contribuer davantage à la défense du sol européen. Emmanuel Macron critique aussi au passage le Rassemblement national. Le parti ne propose rien, dit-il, dans la campagne pour les élections européennes. Puis à souligner aussi ce matin, un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité va être créé en France. Annonce pour le coup du ministre de la Justice dans la presse. Il viendra renforcer notre arsenal judiciaire pour mieux lutter contre la délinquance, dit le garde des Sceaux, qui entend aussi proposer aux trafiquants de drogue repenti, des peines réduites et changement d'identité, modèle déjà en vigueur en Italie.
On en vient à notre sondage du jour et cette question, faut-il supprimer les allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes?
Eh bien, selon l'étude CSA, le sondage CSA exclusif pour Europe 1 CNews et le JDD, à cette question, les Français interrogés ont répondu oui à 72%, c'est donc assez massif. Les Français assez tranchants aussi sur l'application d'une tolérance zéro dès la première atteinte à la laïcité à l'école. Ils y sont favorables à 76%.
Il est 6h39 sur Europe 1, il est l'heure de se plonger, il arrive très vite dans le mois de mai avec ses nombreux jours fériés.
Et oui, c'est la fête du travail, mercredi prochain, le 1er mai, puis la fête de la victoire, le 8 mai. Alors lequel allez-vous prendre pour profiter d'un pont et d'un peu de repos? Eh bien, selon une étude de la plateforme de location particulier à particulier, c'est le pont du 8 mai qui a été largement plébiscité. C'est même Barthélémy Philippe, une victoire à plate couture.
Oui, la bataille des ponts tourne à l'avantage du 8 mai, avec 44% de réservations de plus que pour le 1er mai. Et le plébiscite des Français pour le 8 mai n'a rien d'un hasard, puisque le jeudi de l'Ascension, également férié, tombe le 9 mai, rappelle Corinne Joly, directrice générale de Particulier à Particulier.
En posant son vendredi, on a 5 jours de vacances. Dès le mardi soir, on est en vacances. Le week-end du 8 mai, il représente au total 40% des réservations de l'ensemble du mois de mai.
L'autre facteur, c'est la météo. Après une deuxième quinzaine d'avril assez fraîche, les Français veulent majoritairement s'évader vers le littoral en espérant du soleil. Et pour ça, ils misent plutôt sur le 8 mai.
On attend un peu que le printemps se stabilise. Plus on réserve tard dans la saison, plus on peut être confiant sur le fait que c'est bon, le soleil sera installé et ne nous quittera plus.
Côté destination en France, les vacanciers de mai plébiscitent la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Normandie. Et selon le comparateur Kayak, ceux qui s'envolent vers l'étranger privilégient le Portugal, la Turquie et l'Italie.
Les explications de Barthélémy Philippe.
Et puis on en a beaucoup parlé hier après le départ du Belém, Alexis. Hein. Dans 3 mois, ce sont les Jeux Olympiques. Et normalement, l'information ne vous a pas échappé. En tout cas, nous on vous l'a donné.
Exactement. L'occasion un peu de se pencher sur la vraie vie de Pierre de Coubertin, l'homme qui a particulièrement milité pour l'introduction du sport, notamment dans les établissements scolaires français. Pierre de Coubertin, qui fait l'objet d'une bande dessinée publiée chez Stinkis. Et cette BD, c'est Sébastien Bordenave qui vous la présente.
Elle s'appelle Pierre de Coubertin, entre ombre et lumière, elle décrit parfaitement la personnalité complexe de l'inventeur de la formule « l'essentiel c'est de participer », même s'il n'a jamais prononcé cette phrase, il déclare « l'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part, c'est plus long ». Dans cette BD de Xavier Bétaucourt et Didier Pagot, on admire le long chemin tortueux des premiers JO modernes d'Athènes de 1896. À la mort du baron à Genève, son cœur embaumé sera déposé dans une stèle à Olympie en Grèce. L'humanisme et le pacifisme de Pierre de Coubertin vont devoir cohabiter avec une misogynie courante à l'époque. L'exaltation de l'athlétisme mâle à l'applaudissement féminin pour récompense et ces jeux servent l'extension coloniale. Les sports doivent être encouragés chez l'indigène à condition de ne pas les préparer à une rébellion future. Reste que la BD regorge d'anecdotes folles et rend un hommage graphique à cet idéaliste, un hommage non idéalisé, donc un vrai hommage.
Eh bien, ça donne envie. Merci à Sébastien Bordenave.
Et merci à vous, Alexis de la Fléchère. Il est à peu près 7h20 sur Europe 1. Alors pour ceux qui se réveillent, Mickaël Poteau, il faut s'attendre à beaucoup de pluie si vous vivez dans le sud-est. Hein.
Oh oui, et c'est probablement l'information météo de cette journée lénaïque. De 3 semaines à 1 mois de pluie attendue dans les Cévennes et l'équivalent de 2 à 3 semaines de pluie dans les plaines ardéchoises, drômoises et dans le Lyonnais. Et cette perturbation, dont les pluies sont plus abondantes dans le sud, donc remonte jusqu'à l'Alsace sans épargner la vallée du Rhône et l'Est bourguignon. Ailleurs, on assiste à un ciel de traîne avec un temps sec des Pyrénées jusqu'aux Ardennes, un peu de pluie sur les côtes normandes et des Pays de la Loire jusqu'au Bordelais, des averses dans ces régions qui risquent d'être moins fréquentes dans la journée mais plus orageuse. Pour le vent, il souffle sur les deux extrémités du pays, 40 à 60 km par heure sur les Hauts-de-France et en Méditerranée. Et allez les naïcs, je vous donne la bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est au tour du Mercantour et en Corse où le soleil va briller.
Non, vous ne me donnez pas une bonne nouvelle, vous en donnez plusieurs puisque les températures remontent, ça va se radoucir un peu.
Bien joué les naïcs, effectivement, de la douceur ce matin, 5 à 13 degrés, 5 la matinale pour Nantes et Brest, 6 à Aurillac, 7 à Rodez, 8 à Alençon, 9 à Orléans, 10 pour Charleville-Mézières, 11 à Perpignan et jusqu'à 13 pour Ajaccio. Et les températures cet après-midi s'approchent des normales de saison, 12 à 26 degrés, 12 à Calais, 13 à Lyon, 14 à Amiens, 15 à Vannes, 16 à La Rochelle, 17 à Cognac, 18 à Agen, 19 à Marseille et jusqu'à 26 degrés. Ça va être très agréable du côté d'Ajaccio.
Merci beaucoup Mickaël Poteau. Dans un instant sur Europe 1, les balades. Avant 7h, Vanessa Zah va nous emmener en Camargue et on va cuisiner, on va apprendre à cuisiner le gravlax avec Olivier Pouls. Mais avant cela,
la Caisse d'épargne Île-de-France vous présente l'entretien, une date, une histoire.
Philippe Legrand qui reçoit ce matin Amir et Sandrine Lévy, la défunte épouse, l'épouse du défunt à Daniel Lévy. Tous les deux, ils reviennent justement sur le 6 août 2022, le jour où le chanteur nous a quittés. L'un et l'autre qui militent en faveur des chansons d'amour pour changer le monde. Bonjour Philippe, bonjour Amir et Sandrine.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Retour en 2022, bonjour Sandrine Lévy.
Bonjour Philippe.
Productrice, mais aussi épouse du chanteur à la voix d'or, Daniel Lévy, vous avez réalisé avec votre mari artiste quelques-uns de ses plus grands tubes. Il y a bien sûr la version réadaptée de L'envie d'aimer et les autres qui ont bercé ces dernières années comme Grâce à toi et cet hymne Toi, moi, nous, eux, lui, vous pour célébrer le monde médical des infirmières aux urgentistes à l'heure du Covid. Sandrine Lévy, vous en produisez même le clip qui reste l'un des plus beaux hommages en chanson au personnel de santé. Ce clip est aussi un exploit autour de Daniel Lévy. Près de 50 personnalités chantent avec lui des centaines de merci de Pascal Obispo à Elsa Gimberstein. Et vous aussi, Amir. Bonjour, Amir.
Bonjour, Philippe.
Vous, le chanteur à la voix puissante, vous êtes de l'aventure également. Aujourd'hui, justement, Sandrine Lévy, vous continuez à faire vivre l'âme et le talent de Daniel Lévy, une soirée-concert de bienfaisance pour offrir et installer des pianos dans les hôpitaux, aura lieu au Théâtre Mogador à Paris. Ce matin, sur Europe 1, retour sur le 6 août 2022, au cœur de l'été, Daniel Lévy disparaît. Quelque temps avant, c'est sa volonté, son combat et le dévouement du monde médical qu'il évoquait au micro d'Europe 1.
Au moment où j'étais en réanimation, il y avait des infirmières qui venaient, bien sûr. Et j'ai cru tout d'un coup que j'étais dans une autre dimension. J'étais juste en face d'une merveilleuse chanteuse, infirmière, qui en plus de s'occuper de moi, était une artiste incroyable.
Voilà ces mots forts, ces mots émouvants, ces mots... Vous étiez là, Sandrine Lévy, lorsqu'il était dans ce studio aussi Coluche pour ce dernier témoignage.
Oui.
Ces mots résonnent finalement aussi encore aujourd'hui et face à l'actualité du monde médical. Il était extrêmement et combatif et attentif au monde médical.
Oui, il était et j'irais même à dire, on continue à être là... À continuer son rêve et surtout à être combatif pour toutes ces personnes qui sont là pour aider le monde, on va dire.
Le 6 août 2022, il disparaît.
Oui.
Et là, les hommages apparaissent de toutes parts.
J'ai laissé mon téléphone fermé pendant beaucoup de temps parce que je crois que quand arrive une épreuve comme celle-ci, on ne fait pas attention à tout ce qui se passe autour. Mais en tout cas, encore aujourd'hui, on a beaucoup de bienveillance envers nous, sa famille, sa petite fille. On a beaucoup de messages de soutien.
Amir, vous êtes là et ce 6 août 2022, vous en souvenez, il y avait beaucoup d'émotions.
J'ai chanté le jour de son décès aussi quand j'étais en tournée des festivals à ce moment-là. Mmh. Et il nous paraissait inévitable de lui rendre hommage durant ce concert. Mmh. Alors, grâce à mes musiciens et leur... Leur amour pour Daniel, on a pu répéter en quelques heures à peine et reproduire l'envie d'aimer devant un parterre de 30 000 personnes. C'était très émouvant, ce moment-là est un des moments de scène dont je me souviendrai le plus. J'avais l'impression de lui communiquer à la fois ma peine et mon respect pour sa carrière, pour l'homme qu'il a été. C'était ma façon de lui rendre hommage et je pense que chanter la chanson d'un grand artiste, c'est d'une certaine manière le voir revivre un instant et le garder avec nous.
Sandrine Lévy.
Amir a fait quelque chose je vais prendre quelques secondes pour le dire, parce qu'il a fait quelque chose de plus que quelqu'un du métier. C'est le seul, et je dois beaucoup, beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu, nous, sa famille, moi, sa femme, me visiter jusqu'à Marseille alors qu'il était en tournée. Il a pris le temps de s'arrêter pendant un instant juste pour venir... faire ce petit passage chez moi, et ça, je l'en remercierai et je l'oublierai jamais.
Un passage chez Sandrine Lévy, Amir. Est-ce que vous vous souvenez des mots que vous avez prononcés sur scène, quelques mots peut-être pour le définir ?
Si je suis amené à parler de Daniel aujourd'hui, je pense que qu'on parle énormément de sa voix, qui est évidemment phénoménale, hors du commun, un niveau autre, différent, presque surhumain, je dirais, par rapport à nous autres simples artistes. Mais en plus de sa voix qui avait cette magie particulière, on ne parle pas assez de l'homme qu'il a été, cet homme humble, intelligent, sensible, souriant, charmant. Tant de qualités qui manquent aujourd'hui dans le monde et dans le monde artistique plus spécifiquement. Je pense que malgré le drame, Sandrine a eu de la chance de partager des années de sa vie avec un homme d'une telle grandeur. Et voilà, je suis particulièrement ému d'avoir pu croiser son chemin. J'étais en début de carrière et lui était déjà bien installé, mais il m'a donné des conseils précieux et m'a apporté toute la bienveillance d'un grand artiste.
Son nom est là, Amir et Sandrine Lévy, hein, Daniel Lévy, son nom s'allume encore et va s'allumer plus particulièrement, et c'est votre initiative Sandrine Lévy, très prochainement le 7 mai au Théâtre Mogador à Paris pour cette soirée concert hommage de bienfaisance, avec cette volonté, hein, et vous partagez cette idée Amir, qui est cette idée que vous aviez Sandrine et Daniel, offrir et installer des pianos dans les hôpitaux, c'est aussi le sens de cette soirée de concert,
Sandrine Lévy. Oui, bien sûr, c'est le sens propre, puisque quand il était en soins, il se mettait un piano qu'il y avait sur l'étage de l'hôpital, et puis comme il y avait des malades qui étaient quelquefois toutes seules pour affronter un petit peu la maladie, ben, ils venaient se mettre à côté de lui, et Daniel chantait ou jouait du piano seulement, parce que des fois c'était difficile, et on se retrouvait des fois à deux, trois, et les médecins venaient, les soignants venaient, les malades venaient se mettre autour de lui et ça donnait du bonheur aux gens. Alors, le but de cette association, c'est bien sûr de continuer son rêve, de placer des pianos dans les hôpitaux, mais pas seulement de les déposer, mais bien au contraire, de les animer, de faire venir quelquefois des artistes pour pouvoir donner des moments assez intenses pour eux et leur donner du bien.
Des moments intenses et aussi, donc, ces moments intenses, ils seront là, sur scène. Alors, comment va s'organiser ce spectacle à l'occasion de cette soirée hommage et de bienfaisance ? Amir sera là. Quelle chanson de Daniel sur scène ?
J'aime beaucoup la chanson « Lonely ». Ah. Lonely ou lovely, je sais.
Lonely,
j'ai
lonely.
Peur de me tromper. Lonely, c'est ça.
Lonely.
Lonely, the last thing is easy. C'est une chanson sublime d'un de ses premiers albums qui m'a bouleversé. J'étais même pas chanteur encore à l'époque quand je l'entendais. Mais elle donnait tout de suite envie d'admirer, envie de tenter de reproduire cette magie vocale qu'on a évoquée.
Merci d'avoir été avec nous, Amir.
Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup, Sandrine Lévy, d'être venue. Avec vous, on est revenu sur le 6 août 2022, la disparition de Daniel Lévy, cette voix en or qui continue de résonner,
plus que jamais.
Et plus particulièrement pour cette soirée de concert hommage le 7 mai au Théâtre Mogador à Paris. À bientôt, bon dimanche.
Merci.
Une date, une histoire que vous retrouvez tous les dimanches matins dans Europe 1 Matin Week-end à 7h-20 et puis quand vous le souhaitez, hein, pour même la rediffusion sur europe1.fr quand vous le souhaitez.
C'était l'entretien, une date, une histoire avec la Caisse d'Épargne Île-de-France, banque coopérative au service de sa région. Plus d'infos sur caisse-épargne.fr/île-de-France.
Bon réveil sur Europe 1 avec Lénaïque Monnier, il est 6h52.
Europe 1 Matin Week-end.
6h-9h, Lénaïque Monnier.
L'heure du journal permanent, Alexis de la Fléchère.
Emmanuel Macron prêt à ouvrir le débat pour une défense européenne avec l'arme nucléaire. Déclaration du chef de l'État dans la presse. Le président qui précise que la France garderait sa spécificité, mais pourrait contribuer davantage à la défense du sol européen. L'actualité, c'est aussi ce plan choc annoncé par le ministre de la Justice pour lutter contre le crime organisé. Un parquet national dédié à la lutte contre ce type de criminalité va être créé, explique Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux entend aussi proposer aux trafiquants de drogue repentis des peines réduites et changements d'identité inspirés du système italien. Puis faut-il supprimer en France les allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes ? À cette question, les Français répondent oui à 72%. Résultat d'un sondage CSA exclusif pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin. Enfin, suite et fin de la 31e journée de Ligue 1 ce soir, Marseille reçoit Lens à 21h en clôture. Un peu avant, à 19h, on suivra Lyon-Monaco, un nul ou une défaite monégasque officialiserait le sacre de champion de France du PSG. Paris qui a repoussé l'échéance après son nul 3-3 hier contre le Havre.
Merci Alexis, vous restez sur Europe 1. Vanessa Zah nous embarque en Camargue dans un instant et nous cuisinons le gravlax avec Olivier Pouls. À tout de suite.
Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Hey, trop de boulouse? Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Europe 1 matin week-end, 6h-9h, Lénaïque Monnier.
La balade du dimanche avant de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Vanessa Zah, bonjour Olivier Pouls.
Bonjour à tous.
Et nous partons donc...
Ah,
ah, flamants roses. Ah, ce sont des
flamants roses. Ah, ça fait comme ça, des flamants roses. Ouais, exactement. Donc,
j'imagine que nous partons en Camargue. Bravo. C'est la reine des bruitages.
Pourquoi? Parce
que c'est la saison de la plantation du riz.
Alors, pour moi, la meilleure adresse pour vivre justement cette Camargue intensément, sa culture, ses traditions, ses paysages. Voilà, ça y est. Bah, vous me cassez tout. Allez, alors à vous, Olivier. Voilà. Alors, c'est le domaine de Méjane. Méjane en provençal, en fait, ça veut dire le milieu. D'accord. Mayanas. Et justement, on est au milieu du Delta, et la riziculture, donc un riz qui permet quand même de désaliniser donc, l'eau, sur le domaine, on la doit à qui, à votre avis?
Oui.
Allez.
Alors, c'est très ancien.
Si je vous dis, ce domaine-là. Hein.
Ah, sur ce domaine-là, bah oui. Je ne sais pas.
Si vous dis, collé Olivier.
Une boisson alcoolisée, anisée?
Du pastis.
Ouais, donc, à qui? Voilà. Et donc, en fait, il achète ce domaine en 39.
D'accord.
Il était tombé amoureux de la Camargue d'enfant parce que son père était négociant donc, en vin et il allait découvrir le vin des sables.
Et alors, comment on passe de l'alcool au riz?
Parce que là, on est d'accord. Donc, 39, Vichy, évidemment, interdit la vente de l'alcool. Donc, finalement, Paul Ricard se dit, je vais déplacer mes employés pour qu'ils échappent au STO. Je les installe dans ce domaine. On va le transformer en terre agricole. Et puis, alors, ce domaine, il va l'ouvrir petit à petit. Dans les années 50, il invite tout le monde pour prendre un verre anisé chaque dimanche, tous les Camarguais. Il va construire les arènes de Méjane. Hein. Ce sont quand même les plus grandes arènes privées d'Europe, 4200 places. Et donc, Méjane devient un lieu de fête. Alors, comme sur ces îles, bah, il va faire venir ses amis Picasso, Luis Mariano, Joséphine Baker. Il y a même Johnny Hallyday qui va venir et qui va tourner « D'où viens-tu de Johnny ?»
Ah oui.
Parce que, évidemment... il avait racheté les studios de Marcel Pagnol, ce Paul Ricard.
Et ça ressemble à quoi aujourd'hui, Vanessa?
Alors, évidemment, on peut découvrir la production du riz, la vie des gardiens, on peut se promener à cheval, dans les marais, au milieu des taureaux, on peut surtout monter à bord du petit train sur rail, ça c'est la Madeleine de Proust de tous les Camarguais, élonger les temps du Vacarès, admirer les flamants roses, se poser dans le restaurant de poissons, le Mazet, et moi je vous invite à dormir dans les anciennes maisons des collaborateurs.
C'est
donc
ça qui Paul
Ricard. Allez, hop, tout le monde, tous les auditeurs. Ils ont été transformés. Ils ont été transformés en gîtes, ces maisons.
Alors, Olivier, rien à voir. Hein. Nous, on part plutôt dans le nord.
Dans le nord. Ben oui, vous savez, tous les dimanches, on se balade un peu. Et là, on va monter très au nord. On va s'arrêter en Suède pour découvrir une recette qu'on fait d'ailleurs chez nous de plus en plus. Mmh. Une alternative au saumon fumé, c'est ce qu'on appelle le saumon gravlax.
Ah oui.
Alors, gravlax, bon, ça signifie saumon enterré en suédois. Grava et lax. Ses origines sont lointaines, elles remontent à une période, le Moyen-Âge, période à laquelle la conservation des viandes et des poissons posait problème. Eh ben non, il n'y avait pas de frigo. Et bon, alors en hiver encore, ça pouvait fonctionner dehors, mais en été, c'était plus difficile. Et donc, pour conserver ces poissons qu'on pêchait, il y avait deux techniques, celle du fumage et celle qui consistait à saler les filets de poisson et ensuite à les enterrer dans un trou. Une technique qui s'est ensuite répandue dans tous les pays nordiques. Alors, je vous rassure aujourd'hui, pas besoin de trou pour réaliser un saumon gravlax. Je vais vous donner la recette dans un instant. En fait, ce qui se passe, c'est que le sel, au contact de la peau, il absorbe l'eau et bloque l'action des enzymes qui sont responsables de la putréfaction du poisson. Ça permet donc de le conserver. Idéalement, votre filet de saumon ou d'autres poissons, parce que ça marche avec plein de poissons, vous pouvez le passer 24 heures au congélateur. Ça peut tuer les éventuels parasites, puisqu'on va le manger pratiquement cru quand même.
Alors, la recette.
Eh bien, un beau filet de saumon d'environ 600 grammes ou d'autres poissons. Vous allez garder la peau.
D'accord.
300 grammes de sucre, 300 grammes de gros sel, un petit bouquet d'aneth et puis un mélange de poivre noir concassé, de graines de coriandre, de zeste de citron, de baies rouges.
Ça,
c'est pour donner un petit peu de goût. Vous prenez le fond d'un plat et vous étalez le mélange sel, sucre, épices. Cisèle l'aneth et on va venir plaquer les petites pluches d'aneth sur la peau du saumon.
D'accord.
Cette peau du saumon, ensuite, on va la mettre dans notre plat, donc côté, évidemment, mélange, sel, etc., pour que ça colle bien dessus. On recouvre d'un film plastique au contact, et on peut poser un autre récipient dessus pour bien tasser,
Bien
plaquer, exactement. Et on laisse reposer pendant 24 heures.
Ah oui, quand même.
Ensuite, on récupère notre filet, on va le passer sous l'eau pour enlever l'excès de sel, parce que sinon c'est immangeable. Et puis, tout simplement, il ne reste plus qu'à le découper très finement. Et on a donc l'extérieur qui a été cuit par le sel, qui est protégé. On a toujours les petites pluches d'aneth qui donnent du goût. Et puis un petit filet de jus de citron, c'est parti.
Et un petit verre de blanc avec modération. Et on a notre recette. Pas notre recette du dimanche, mais de lundi ou de dimanche prochain. On anticipe. Merci à tous les deux. Europe 1.fr pour retrouver la chronique.